Par derrière. Parce que par devant, on ne voit que la façade. Parce que de côté, on ne voit qu'une partie. Parce que d'en haut, on ne perçoit pas tous les détails. Et parce que par derrière, on a toujours des surprises. Par derrière, pour aller à la rencontre de ces anonymes qui participent, de près ou de loin, à notre vie de tous les jours. Par derrière, pour les mettre, eux, en avant. Je suis Lise Pressac, et pour ce podcast, je tends mon micro à des femmes et des hommes aux métiers peu ou mal connus et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici. Enfin, par derrière. C'était un midi, un déjeuner avec mon pote Fabrice, on se connaît depuis près de 20 ans. Je ne sais pas comment on en vient à parler de sa pote Sylvie, mais quand il m'a dit ce qu'elle faisait dans la vie, j'ai bloqué et je lui ai dit « mais elle serait super d'en par derrière ». Contacte-la de ma part, je suis sûre que ça la ferait marrer, me répond-il. Vendredi 1er septembre, il est 23h, je crois que je suis jamais partie aussi tard pour un podcast de par derrière, oui je suis même sûre même. 20 minutes de vélo plus tard, me voilà à la porte d'une boîte parisienne du 10e arrondissement. J'ai rendez-vous avec Sylvie pour passer la nuit avec elle. Tu fais quoi dans la vie ?
Je suis physionomiste en boîte de nuit.
Ça consiste en quoi, physionomiste ?
Ça consiste à accueillir la clientèle qui se présente dans l'établissement et la sélectionner. Donc, essayer de faire en sorte que les gens qui se présentent devant l'entrée du club conviennent à l'établissement, à ce qu'on attend un petit peu d'une boîte de nuit, c'est-à-dire d'avoir des gens plaisants, pas forcément habillés sur leur 31 comme un costard, etc. Mais juste avoir des gens un petit peu jolis, un peu soignés et des gens surtout dans un bon état d'esprit. Alors, on ne peut pas discriminer une personne sur sa façon, sur sa tenue vestimentaire, mais ça joue quand même beaucoup. C'est-à-dire que si tu arrives en tant que femme avec des baskets complètement déglinguées, j'avoue, ça ne me fait pas plaisir. Voilà. Donc l'idée, c'est de sélectionner une clientèle harmonieuse.
Voilà. Et si j'arrive avec mes Jordan, ça passe ?
Alors ça passe, ça résume pas. Si elles sont propres, oui.
Et justement, quand tu parles de règles et de choses qui conviennent à l'établissement, c'est un peu, on te les donne ces règles ou c'est un peu toi aussi qui te dis, ben voilà moi ce que j'aimerais qu'il y ait et voilà l'image à laquelle ça correspond, c'est ces règles-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est des règles ouais. Un peu tacites ou est-ce que c'est un
en
peu...
Il y a du tacite, il y a aussi en fonction de l'établissement dans lequel tu travailles. Moi, j'ai fait beaucoup de clubs, j'ai fait des clubs assez variés, des clubs dits électro, des clubs un petit peu privés, mais c'est, on t'explique plus ou moins. Enfin, je crois qu'on a dû m'expliquer une fois au tout début de ma carrière, parce qu'on va appeler ça une carrière ou depuis que je fais ce job, quelles étaient les attentes. Mais non, c'est assez tacite et finalement je crois que c'est moi qui décide de ce qui m'inspire ou non. C'est une question de ressentir la personne et surtout de se dire que les personnes que je refuse sont les personnes qui me mettent mal à l'aise. Voilà, c'est assez particulier, même très, très délicat à expliquer, mais ça peut être une façon de se comporter, un geste un petit peu déplacé, une façon de s'adresser à mes agents de sécurité, enfin, c'est un tout qui fait que voilà, c'est moi qui suis complètement gestionnaire de ma porte.
Si vous avez un sac, mademoiselle, on le vérifie, c'est le monsieur qui vérifie. Et les tickets, c'est à l'intérieur. Bienvenue.
Moi, j'ai passé la nuit avec toi et je sais qu'une des choses, par exemple, qui ne peut pas passer, c'est un mec tout seul, c'est un peu suspect de base. Ou est-ce que ça dépend du mec ou est-ce que ça dépend justement un peu de ce que tu disais sur comment il se présente et l'état d'esprit ?
L'homme seul ou la personne seule fait... Bah, ce que je te disais, c'est que ça me met mal à l'aise, en fait. Je me mets à la place d'une cliente à l'intérieur, donc une femme ou une jeune femme. Je vois un type, en fait, tout seul. Bah, la personne va rester le long du mur ou dans un coin du bar et observer les filles, je présume. Enfin bon, je me fais pas un cliché du psychopathe qui rentre tout seul en boîte de nuit. Mais ouais, donc je refuse les hommes seuls parce que je pars du principe où ça me dérange et où ça dérange les femmes à l'intérieur.
Il y a une petite queue qui commence à se former déjà.
Oui, ça commence à ouais. Oui, ça y est.
Arraché le
cheveu
gris là.
Oui, c'est ce que j'ai vu.
En... Voilà. Ils hésitaient, mais on est 5.
Ouais, vous auriez pas dû le ramener, lui, c'est ouais. Ça va être le vrai. Vous quatre, c'était monsieur, bien, mais monsieur le cinquième sera cinquième.
C'est bon,
voilà, c'est parfait.
Alors, il y a plein de choses qui m'ont marqué pendant cette soirée, c'est que je me dis ouais, c'est pas évident parce que c'est un milieu très masculin, parce que ça veut dire que tu es entouré de mecs de sécu qui en imposaient tout. Je dévoile pas un grand secret si je dis que toi tu es plutôt pas très grande et qu'il faut quand même en imposer peut-être, et que tu te retrouves à dire non à des mecs, et que moi je me mets à ta place et je me dis, comme tu disais, c'est la porte, c'est-à-dire que tu es dehors. Tu peux être exposé à n'importe quoi. Est-ce que c'est des choses auxquelles toi tu penses en disant, est-ce que le mec, voilà, que j'ai recalé, il n'aura pas envie de venir m'embrouiller plus tard, ou même m'embrouiller tout de suite d'ailleurs?
Tout de suite, ouais. ça arrive assez immédiatement. Il y a aussi le petit temps de latence, le temps que la personne réagisse, se dise, mais en fait c'est Nana qui m'a refusé. Il y a ça aussi, le principe un peu misogyne de réaction, ou de se sentir déjà exclu. Donc tout rentre en fait en ligne de compte, et en fonction de la consommation d'alcool de la personne, donc du type, ou peu importe, là, tout genre, confondu. C'est souvent sur le moment. Après, il y a des retours aussi qui se font 10 minutes plus tard, et dans l'agressivité, bien entendu. Donc des insultes. Alors, je sais que par expérience, ou c'est ce qu'on m'a appris dès le départ, c'est ce que mes agents de sécurité m'ont dit, c'est de ne pas se tenir trop proche de la barrière, parce que c'est là qu'on peut avoir, on peut se faire soit griffer par quelqu'un, soit se faire prendre une gifle. Et il faut éviter aussi d'être, quand tu es proche de la barrière, une écharpe, parce qu'on peut t'attraper par l'écharpe et là te mettre un coup de boule ou n'importe quoi. Donc effectivement, c'est un job qui présente des risques réels. Alors j'ai mes agents de sécurité qui sont un peu des golgottes, si on veut. Après, chacun, on n'est pas tous, on peut pas être hyper réactif tout le temps. Il y a du monde à droite, à gauche, devant, enfin ça arrive dans tous les sens. J'évite de trop y penser, parce que dans ces cas-là, ça te met un stress immédiat, et puis ça bousille ta soirée. Ouais, donc après, tu te sens plus même plus capable de refuser les gens. Tu te mets dans un truc où tu t'es toute tétanisée, où tu sais que la soirée va mal se passer. Et voilà. Et en tout cas, je sais que je compte sur mes agents de sécu, je compte sur moi, sur mon bagou, sur ma façon aussi de désarçonner, de surprendre les personnes, essayer de pratiquer l'humour, essayer de désamorcer certaines situations, en tout cas, ou déstabiliser les gens. Il faut savoir que, quoi qu'il en soit, les gens sont vexés, les gens ne sont pas contents. Et les gens, voilà, les gens vont venir te solliciter, te faire chier pendant une heure même.
Ça passera pas.
Ça passera pas ?
Non. Là, c'est un peu trop la totale casquette, machin, c'est un peu jogging pour moi, ça passera pas.
Les Salomon, tu connais pas les Salomon?
Alors, c'est... je connais les Salomon, c'est juste...
Le pantalon ACG, ça te plaît pas non plus, la polaire North Face, ça te plaît pas, il y a un problème.
C'est un peu sport.
Ok, d'accord, pas de problème, pas de soucis.
On m'a dit la semaine dernière, je te remercie parce que tu m'as super bien refusé. Et j'ai trouvé ça super agréable, je trouvais ça très mignon. Voilà, la personne est partie sans s'offusquer, sans se vexer plus que ça. Elle m'a dit, franchement, tu m'as tellement bien refusé que je peux pas t'en vouloir.
Qu'est-ce que tu avais dit justement ce soir-là ?
Je ne me rappelle même pas trop de ce qui s'est passé, compte tenu du nombre de personnes, mais en fait, c'est juste rester calme et pas... Je ne dis jamais à une personne qui arrive, enfin, j'essaye, après je ne me rends pas compte, tu l'as vu, tu es resté avec moi sur le terrain. Je ne dis pas un non frontal. Tu ne peux pas dire à une personne qui se présente devant une entrée, non, ça ne va pas être possible, sans que la personne t'ait encore adressé la parole. Parce qu'à partir de là, la personne se vexe. C'est à partir de ça que dans son cerveau, ça va être une réaction justement qui va donner de l'agressivité. Donc il faut pas non plus la laisser croire qu'elle va rentrer, mais rester assez stoïque, mais surtout rester agréable et surtout sourire en fait, tout simplement. Juste avoir un minimum d'empathie et ne pas être odieuse avec les gens. Je suis personne, je suis juste une personne qui est placée devant un club, donc qui fait quand même la sélection, même si le mot est rude, donc ça inclut de la discrimination, mais il faut essayer de faire passer les choses de façon souple et de façon douce. Je ne supporterai pas, ou je ne supporte pas les clubs où les personnes qui sont placées devant sont là, genre non, ça va être possible. S'il n'y a rien de plus humiliant, en fait. Le but, c'est pas d'humilier les gens. Et le but, c'est que les gens, peut-être, reviennent la fois d'après, dans un état plus correct, parce que souvent, c'est aussi l'alcoolémie qui fait que tu refuses les gens. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, les baskets sales, tout ça, on peut passer outre. Pour éviter de recevoir de l'agressivité, il ne faut pas l'être soi-même, en fait. Ouais, être dans la douceur et dans l'explication et dans la considération.
En plus, il a l'honnêteté de me dire entraînement, tout ça. Donc là, il sort clairement de l'entraînement.
Non, mais
je peux pas.
C'est
mon mec. Oui, alors c'est ton amoureux, c'est super, mais là, non.
Sport,
je ne juge pas, c'est juste la tenue.
Il y a des shorts
du gréco-romain, tu vois.
Mais bientôt, il y aura la Coupe du Monde et plein de trucs et tout.
Non, mais si vous avez...
Bah non, il lui-même comprend. Non, là, je
pas, short, non, je comprends, non.
Non, non, non.
Non, mais c'est... arrête, c'est bon, je comprends. À un moment donné, c'est un club d'ennemis. Non, voilà. Je dois rentrer.
S'il vous plaît. Ça reste le 10e arrondissement, soit t'es
comme ça. Non, non,
short, t-shirt, ça
peut dire.
Monsieur, je comprends mieux.
Non, faut arrêter de négocier pour quand c'est pas négociable.
Négociable.
Là, entièrement raison, la dame.
Non, mais. Tant que mieux que j'ai pas vu encore le site de Nike, tout ça,
là,
c'est vraiment.
Non, mais justement, c'est rugby. C'est rugby qui le cherchait. On s'entraîne pour leur prise de
l'assistance avec une chemise.
Justement,
oui, mais tu le disais, il y a un paramètre à prendre en compte, c'est l'alcoolémie. Moi, je pense que j'ai vu zéro personne à 0%, vraiment. Et je me dis que dans ces cas-là, même la meilleure argumentation, même le côté le plus, tu vois, posé et explicable, vu que tu es face à quelqu'un qui n'a clairement pas le même taux d'alcoolémie que le tien, comment est-ce que tu arrives à faire passer un message à quelqu'un qui, de toute façon, n'est presque pas apte physiquement à le recevoir, parce que là on discute quand même avec des gens qui sont bourrés.
Ouais, en fait c'est ça, c'est ce que tu dis, physiquement, physiologiquement, ils sont complètement hors champ de compréhension, enfin, ils ont dépassé un certain stade d'intégrer des informations. Alors, comme j'aime bien dire, je parle le bourré parce que ça fait 15 ans que je fais ce métier. Je le parle bien parce que j'ai beaucoup fait la fête avant de faire ce métier. Et ça m'arrive aussi à 2h du matin ou 2h30 quand le rush commence à arriver ou quand là, c'est bouché de partout, tant dans le couloir de l'entrée qu'à l'extérieur, de me dire, je pense que c'est le moment d'aller boire un shot de vodka. Voilà, ça, c'est mon petit truc à moi, mais encore que ce n'est pas tout le temps. Mais je parle le bourré parce qu'en fait, les situations sont systématiques. Il y a beaucoup de récurrences, il y a beaucoup de cas de figure, donc il y a l'insolence des gens aussi. C'est non seulement les gens ne savent plus ce qu'ils disent, je leur réexplique assez souvent, ce qui ne sert à rien, hein, que demain ça va mal se passer, qu'ils ne seront pas bien, que le Doliprane ne fera même pas effet et qu'ils regretteront probablement leurs propos s'ils s'en souviennent. Mes agents de sécurité me disent que je parle trop, parce que c'est un fait, je parle énormément, mais en fait ça désamorce quand même quand tu parles avec les gens, même bourrés, sauf si les gens sont déjà en train de t'insulter, mais ça adoucit quand même la situation, mais il faut savoir parler le bourré. Mais ça peut être sans fin, c'est-à-dire que si t'as 50 personnes qui attendent derrière, ça fait un embouteillage de gens et en fait tu t'en sors pas, tu peux pas parler avec tout le monde, surtout tous les bourrés que tu refuses à chaque fois.
Voilà, donc il est 2h.
Oui, ça se voit. 2h, ça bascule.
On allait trop vite.
Non, Uber, c'est un fast track.
Qui est avec qui pour
fast track?
On est 8. Vous n'êtes pas encore au complet.
C'est 9. Trop fort pour les tympans de monsieur.
10, 11.
On est bien.
On est 11.
Bonsoir.
On est bien, ça va.
Cool, c'est bien.
On avait 2 taxis, on n'arrivait pas à un moment.
J'ai pas tout compris.
On a pris 2 taxis, je suis pas arrivé au même moment.
Voilà. Merci pour l'introduction.
Il manquait des lettres.
Je suis décodeur.
Il y a un traducteur, c'est une deuxième traduction.
Oui, j'ai un décodeur aussi.
Un décodeur, ouais.
Mais il y a un truc qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est que quelque part, je trouve que tu as un rôle de protectrice. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de... D'ailleurs, c'était souvent des filles où tu dis, écoute, là, franchement, je vais juste observer quelques minutes. Je vais attendre de voir comment t'es. S'il y a des copines, les copines, soyez cool. Surveillez-la, la laissez pas boire trop de trucs. Enfin voilà, un peu un côté protectrice de se dire, bah, les filles, vous mettez pas dans une situation trop bizarre parce que vous êtes en boîte et qu'il y a de l'alcool, etc. Ou limite, tu disais, bah, patientez 5 secondes, on voit si on rentre ou pas parce que peut-être que votre soirée, elle va pas finalement super bien se passer, quoi.
Ouais, c'est vrai que je me laisse ce truc de faire un stand-by. Je le faisais pas dans les autres établissements parce qu'une fois qu'on refuse une personne, on a ni le temps ni la place sur le trottoir de laisser des petits groupes de gens comme ça en attente, parce que ça crée tout de suite une sorte de densité sur le trottoir et on peut se faire emmerder par la police ou les voisins. Mais il y a certains groupes qui ont l'air un peu mignons et je ne veux pas pénaliser, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de groupes qui viennent dans le club, je veux pas pénaliser un groupe de 5-6 personnes pour une personne qui a trop consommé d'alcool. En fait, j'ai l'impression de faire des trucs assez honnêtes tant que les gens le sont. Je veux pas être méchante, comme je l'ai dit précédemment, avec les gens. J'ai pas envie de dire au mec, genre non, casse-toi, t'es tout seul. Je trouve ça terrible, en fait. Le but, c'est que la personne passe pas une mauvaise soirée. C'est tellement compliqué dans la vie, en règle générale, que je veux pas que ce le soit plus un vendredi ou un samedi soir, alors que tu as l'intention de faire la fête.
On n'en veut plus.
Encore 3 minutes.
On va aller danser.
Voilà, juste un truc.
Ouais. Vas-y, vas-y.
Ça va, vous?
Ah, mais c'est sûr.
Non, mais je vois que ça va bien, je vois que ça va bien.
Mais oui, bien sûr.
C'est dans sa nature.
On veut danser en fait.
Évitez de boire, allez danser, dépenser l'alcool, tout ça, tout ça. Mais buvez pas tout de suite. Évitez de boire.
Non,
tout de suite.
C'est pas le but.
Moi, je veux juste danser.
Le but, c'est de pas
boire.
Le but, ça a l'air d'aller. Je me permets de faire la remarque à votre amie parce qu'elle a consommé d'alcool et que ça se voit.
La physionomie, c'est sélectionné. On a une très mauvaise image. Forcément parce qu'on est comme les contrôleurs des impôts peut-être, ou comme les pervenches, ou je ne sais quel autre métier où personne ne nous aime. Mais il y a des situations qui se déroulent mal, il y a des cas de figure où les choses se déroulent mal, mais il y a aussi des cas de figure où tout se passe très bien et où il suffirait de regarder sur les avis Google me concernant ou concernant le club, les retours d'expérience sont assez positifs en fait. Et j'ai de moins en moins de gens qui gueulent parce que j'ai peut-être aussi plus affûté ma façon de... Pas ma répartie, parce qu'il faut, faut de la répartie, il faut de l'humour. Mais ouais, le but, c'est que les gens s'amusent, en fait. Le but, c'est pas de frustrer les gens, d'être méchant avec eux. Enfin, c'est pas cool de procéder comme ça. Il y a beaucoup de clubs à Paris où, forcément, c'est un peu plus élitiste. Donc là, ils sont probablement peut-être plus méchants.
Du coup, t'as un power de ouf.
Non, pas du tout. J'en abuse pas du tout. Non, mais c'est mon job.
Non,
en fait,
t'as vu,
c'est... L'idée, c'est que tout le monde soit en sécurité, que tout se passe bien.
Mais
c'est
ça,
oui, tu as ton prénom. Ok, c'est bon, allez-y.
J'ai travaillé dans d'autres endroits à Paris où là où j'ai eu, c'est donc ça fait partie des premiers établissements où j'ai travaillé, les fameuses consignes, et où là c'était. J'avais des consignes, on va dire, de base, et c'est même moi qui ai augmenté le niveau de consignes ou de comment
de principes, de règles en tout cas.
De règles à la porte, en tout cas d'exigences. Donc c'était talons obligatoires, pas les ballerines, parce que je détestais les ballerines. Les baskets, c'était inenvisageable, sauf si c'était des baskets hyper stylées, parce que je bossais dans un endroit qui était quand même un peu machin, où on recevait des gens, genre des Beyoncé, des Jay-Z, etc., sur certaines parties, c'était restaurant et bar à la fois. Et forcément, donc, ça demandait... y avait plus d'exigences, voilà, sur l'aspect, enfin, l'aspect général. C'est physique, hein, là, on était vraiment sur la discrimination absolue. Et où les gens qui arrivaient comme ça, sortis des bureaux, même les gens avec une cravate, c'était rédhibitoire. La cravate, pour moi, c'est rédhibitoire. Donc, à l'époque, j'étais beaucoup plus méchante et il n'y avait pas d'explication de ce genre-là. C'était je te regarde de haut en bas. Et j'étais désagréable,
Et c'était le lieu qui te rendait comme
c'est
ça.
C'est le lieu qui me rendait comme ça, c'est le lieu, ouais. Et sur d'autres soirées, ou en fonction de... C'est vraiment en fonction du lieu, en fait. Plus tu vas dans un lieu dit de standing, plus la barre doit être placée haut. Et c'est le jeu, et les gens le savent. Là, on est dans le 10e arrondissement, et c'est vrai que les gens me le disent. Ça va, on n'est pas dans le 8e, c'est la négociation, en fait, pour rentrer. Et j'avoue, je ne demande plus, même si moi j'en mets, je ne demande pas aux filles de mettre des talons. On n'est pas à l'aise en talons, c'est une réalité. Et j'ai complètement changé, en fait, ma façon d'envisager les choses, parce que le lieu est complètement différent.
Pourquoi tu fais ce métier ?
Pourquoi je fais ce métier ? J'ai passé beaucoup de temps dans les clubs. J'ai toujours été fascinée, j'ai toujours eu envie de faire ce métier. Et est arrivé le jour où justement, dans cet endroit qui était un petit peu élitiste, la physio est tombée malade. Et c'est le directeur de l'établissement qui m'a dit « ça fait quelques années que je te vois, que tu sors, etc. Tu dois maîtriser un peu le principe parisien ». Et tu sais pas, on peut pas dire qui est qui, mais de savoir quel est tel patron de bar, tel patron de club, il y a des gens importants à Paris. Et voilà, donc il y a, sur mes premières années, j'ai appris à savoir qui était qui. Comme si tu avais une sorte d'organigramme de, alors attends, qui travaille chez un tel, qui travaille chez un tel.
C'est une sorte de trombie dans la tête.
Ouais, trombinoscope de gens importants, en fonction des lieux, encore une fois, hein, parce que ça dépend des quartiers, chaque lieu a sa clientèle. On était briefé en revanche sur les gens connus qui peuvent se pointer, si tu ne les connais pas, enfin, gens connus. On parle de gens de la mode, de la presse, tout ça.
Ah, donc en fait, ça a été une occasion qu'on t'a proposé
c'était
de le faire.
Une occasion, ça a été tout un tas de concours de circonstances, tant la fascination quand même de ma part pour ce job, tant le milieu que j'adore et que j'aurais beaucoup de mal à quitter, parce que le milieu de la nuit, c'est quand même un milieu très particulier. C'est une sorte de petite famille, une grande famille, je ne saurais pas trop comment le définir. Et puis parce que je n'aime pas travailler le jour aussi, pas du tout. Et voilà, et c'est sans faire mon truc de... Je ne suis pas un petit chef, je ne suis pas un tyran, mais je trouve ça cool. Et c'est, je ne sais pas, ce truc des gens, de l'humain, de tout cet univers de la fête, en fait, qui me plaît. Et donc, et voilà, et donc ce concours de circonstances d'avoir pu remplacer une fois cette nana qui était donc physio et qui n'a pas pu se représenter pendant plusieurs semaines. Et en fait, j'ai pris sa place. Voilà. Parce qu'en fait, à un moment, tu as aussi une sorte de... Comme le foot, à toutes les rentrées, le mercato. Voilà. Et donc, il y a eu une période où, sur ce fameux mercato des physios, j'avais marqué un certain nombre de points. Bon, parce que j'étais très, peut-être un peu, pas méchante, mais très un peu rigide. Et donc, il y a plein d'établissements qui m'avaient demandé de bosser avec eux. Puis, au fur et à mesure, t'en choisis un. Puis après, tu restes là où tu te sens bien. Et là, je pense que dans 2 ans, ce sera ma retraite de physio, parce qu'il faut savoir s'arrêter. Puis, c'est fatigant aussi, un petit peu. Mais voilà. Mais c'est un métier qui m'a toujours fascinée.
Et tu faisais quoi avant, du coup ?
Avant, je travaillais dans une agence de communication, donc ça n'avait rien à voir, qui était dans le médical, paramédical. Enfin, on faisait de l'institutionnel, enfin, des trucs pas très intéressants. Et voilà, donc j'ai bossé dans des bureaux, j'ai bossé dans un bureau d'études, de la paperasse, des tableurs Excel, enfin des...
voilà. J'ai des boutons rien quand tu le dis.
Voilà, PowerPoint, tout ça, enfin des présentés, des... Non, voilà, donc non, c'est... J'ai fait moitié... Je crois que j'en suis à moitié presque, je sais plus.
Là, t'as quel âge ? T'as quel âge au moment où on te propose ce job ?
À ce moment-là, j'ai 30 ans, 31 ans, ouais. Donc ça fait 15 ans, voire 16 ans que je fais ce métier-là, ouais. J'ai plus bossé la nuit que je n'ai bossé le jour, et je préfère. C'est plus épuisant, mais tu bosses moins de jours, voilà. Tu peux bosser, selon les formats, 4 ou 5 jours par semaine, si tu termines à 2h du matin, et là, en ce moment, c'est plus 2, 3 jours par semaine en terminant à 5h, soit. Mais voilà, ça décale, mais c'est chouette. On est tous très contents de se voir. En fait, je sais même plus comment fonctionne l'univers des bureaux, la machine à café, etc. Mais quand on arrive, on se fait tous des câlins. Parce qu'on est contents de se voir, on sait que la soirée va être dure, on sait qu'on va en chier, pardonne-moi le terme. Mais du coup, on se soutient tous. Voilà, on prend tous l'attention, on a de la bienveillance. Est-ce que quelqu'un veut quelque chose ? Moi, je passe ma vie à ramener des bonbons à mes agents de sécu, des petits gâteaux, des Kinder Bueno pour que les gars tiennent le coup, en fait. Parce que c'est dur de tenir jusqu'à 6h du matin debout, statique, avec des armadas de gens un peu péter, se soutenir et s'entraider.
Est-ce qu'il y en a beaucoup sur la place de Paris, ou est-ce que maintenant il y a beaucoup de clubs qui se contentent d'avoir de la sécu et pas forcément de physio, en fait ?
Je crois que dans le 8e arrondissement, pour les clubs que j'appelle donc élitistes ou avec une certaine clientèle, il y aura toujours des physionomistes. Peut-être des endroits comme le Glazart ou tout ce qui est un petit peu plus électro. Je pense qu'il y a quand même un physio, malgré ce système de pré-vente, je présume, hein, qu'ils font beaucoup de pré-vente ou choses comme ça. Mais il y a tous ces quartiers type Bastille, etc. Je crois que ce sont plus des agents de sécurité maintenant que des physionomistes. Je crois qu'il y a des endroits qui brassent plus de monde et qui n'ont pas le temps qui s'en foutent, en fait, de sélectionner la clientèle.
Et comment est-ce que tu choisis tes établissements ? Est-ce que tu t'en fous du style musical ? Est-ce que ça compte ? Parce que la clientèle change aussi en fonction du style musical.
Les clubs électro, j'ai arrêté. Là, je suis allée vers ce qu'on appelle le généraliste, parce que les clubs électro, c'est épuisant. Les gens arrivent complètement défoncés, en fait. Ça devient pénible. Et les clubs électro, en règle générale, c'est pas du 500, 600 personnes, c'est plus du 1000, 1500, voire 2000 personnes. Donc là, on n'est plus sur de l'épuisement moral, physique. Là, on est sur carrément t'étais rincé quand tu termines de bosser. Donc ça, c'est terminé. C'est plus de mon âge. Et les conditions de travail aussi. Parce que quand tu travailles sur un pont ou sur les quais de Seine, mais ouais, y a des endroits où tu travailles dans le froid et c'est pas très agréable. T'as beau être équipé de toutes les moon boots de je ne sais quoi, enfin tout l'équipement de grand froid, en fait, non, à un moment donné, t'es tétanisé par le froid quand tu restes 4 heures sur place. Ça reste un métier dur. Et c'est pour ça que mon surnom, d'ailleurs, à la porte, c'est Sylvain, parce que les agents m'ont masculinisé mon prénom, parce qu'en fait, je suis comme eux et je tiens le froid et les intempéries comme eux. Malgré mon petit gabarit de 47 kilos, voilà. Donc ça m'a fait rigoler, m'appelle Sylvain.
Il y a beaucoup de filles dans le métier ?
Je pense qu'il y a eu une recrudescence de filles. Il y avait Sandrine, la physionomiste mythique du Queen à l'époque. En fait, ouais, je m'aperçois qu'avant, il y avait Marilyn, Josie. Donc c'était les bains-douches, le Palace, le Queen, etc. Donc c'était les figures emblématiques des années 90, voire 80. Après, il y a eu beaucoup de garçons. Et là, je crois qu'on repart sur pas mal de filles. Je crois que ça adoucit une porte d'avoir une fille.
Tu t'es déjà fait recaler ?
Oui, quand j'étais plus jeune, au Queen, par la fameuse Sandrine à qui je ressemblais apparemment dans ma façon de procéder. Et je me faisais recaler parce que j'étais trop jeune. C'est vrai que c'est pas évident de sortir en club quand t'as 18 ans. C'est pas une cible que les gens veulent forcément, parce que 18 ans, ça induit le fait de pas forcément avoir beaucoup d'argent. Donc voilà, même si c'est pas bien de dire ça, il y a quand même un modèle économique derrière chaque boîte de nuit. Et moi, j'avoue que le club où je travaille, j'aimerais bien en faire un club de trentenaires, pour faire en sorte que les gens de 30 ans, voire plus, se sentent bien. Et si on commence à faire rentrer trop de gens de 18-22 ans, par exemple, ce créneau d'âge-là, ça va dissuader les plus vieux de venir et on va perdre notre clientèle de trentenaires, voire 40, quadra, tout ça, qui est quand même une cool clientèle et ce sont des gens qui ont envie de sortir.
Tu fais quoi du reste de ta vie ?
Alors, j'organisais jusqu'à l'année dernière des événements, donc ce qu'on appelle des after-work, tous les mercredis, qui s'appelait une soirée qui s'appelait la Miaou. Je le dis parce que je le fais plus, ça m'a un petit peu épuisée. Et voilà, donc je passais mon temps à communiquer sur certains endroits pour faire des rassemblements de potes et potes de potes de tout ça, tout ça. Et donc, encore une fois, c'était de la nuit, de l'événementiel. Et ça, j'ai arrêté parce qu'en fait, ça y est, ça, c'est fatigant parce que ça induit le fait de boire de l'alcool et qu'à un moment, te réveiller un petit peu la tête dans le cul, donc tous les matins, où souvent, tu récupères plus de la même façon. Donc, j'ai refait à côté. Alors, c'est peut-être aussi ça qui m'a fait aussi changer de façon de procéder. J'ai repris les cours et j'ai fait une formation, on va dire, pour être thérapeute, faire de la sophrologie. Voilà, donc est-ce que ça m'a rendue plus humaine quand j'ai fait cette formation par rapport au métier de physio, je ne sais pas, mais apparemment mes amis me disent que si. Donc voilà, donc pour l'instant, donc comme tu le sais, je passe mon permis et voilà, je suis en train de faire une transition sur la nuit, on va commencer à arrêter doucement et se dire qu'il va commencer à falloir se recadrer sur quelque chose de plus diurne, on va dire, et de... plus normal, j'aime pas dire ça, mais bon, enfin, en tout cas, qui conviendrait mieux à un rythme biologique classique.
Et c'est marrant parce que t'en parles un peu comme si c'était un sevrage et que toi, t'avais l'air d'être vraiment faite pour vivre en décalé, malgré tous les... Enfin, moi, quand tu me dis ça, je pense à tous les inconvénients que ça procure, c'est-à-dire être en décalage avec tout le reste des amis, de la famille potentiellement. Mais genre, c'est un truc qui rend un peu accro.
En fait, ouais, c'est vrai que socialement, même voilà, tout le monde vit le week-end, enfin tout le monde part le week-end. Moi non, mon week-end, mon dimanche, c'est le lundi. Comme je termine de travailler le samedi à 5h du matin. Mais j'ai pris l'habitude de ce rythme-là. Alors c'est sûr que bon, faut pas me réveiller le dimanche à 11h ou pas me proposer de brunch parce que ça n'existe pas dans mon univers depuis 15 ans maintenant. Mais j'ai organisé ma vie autrement. Donc ça me permet de partir en week-end ça dépend en fait en fonction de ce que je fais. Mais en week-end décalé, les lundis, mardis, mercredis par exemple. Donc c'est plutôt un avantage parce qu'il y a moins de monde.
Et qu'est-ce qui fait que tu te sentais plus... Enfin, je ne sais pas pourquoi j'en parle au passé, mais j'ai l'impression que tu es en phase de transition, mais que tu te sens en tout cas plus à l'aise dans le travail de nuit que dans le travail de jour que tu as connu aussi.
Je ne sais même pas si c'est une question de biorhythme ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler.
Tu n'es pas déglingué totalement ?
Si, hein, franchement, je pense que mon sommeil est complètement déglingué. J'ai des cycles de sommeil qui sont un peu perturbés, mais comme c'est assez régulier finalement, enfin, je ne suis pas si déglingué que ça. À la raison de 3 jours par semaine, je ne trouve pas ça si perturbant que ça, en fait. Je préfère être décalée pendant 3 jours plutôt que de me lever à 7h du mat pendant 5 jours consécutifs. Quoi. Je l'ai fait. Je n'aimais pas du tout. Ça fait 15 ans que je vis avec... Alors effectivement, il y a des moments stressants. Il y a des situations stressantes devant la porte. Mais je n'ai pas cette boule au ventre de me dire « Oh, il faut que j'aille bosser, je ne suis pas bien. » Je ne l'ai pas. Je ne l'ai plus depuis 15 ans. Je l'ai eu avant, en format bureau. Mais là, c'est... Rien que d'en parler, je me dis « Tiens, c'est marrant, je vais oublier cette sensation de crampe. J'ai pas envie d'aller travailler. Je suis contente d'aller travailler. » Je suis contente tout à l'heure de me dire, voilà, je vais me préparer, je vais prendre mon petit vélo et je vais aller voir mes agents de sécu, on va se raconter des blagues débiles, on va s'acheter des tonnes de Kinder Bueno, que j'ai déjà acheté d'ailleurs, j'ai fait des stocks, et voilà, et on va rigoler. Ah, en fait, je trouve ça drôle, en fait. C'est plus vraiment un travail pour moi. On bosse vraiment, mais on s'en rend pas compte, en fait. On s'en rend plus compte, même s'il y a des comptes à rendre, des objectifs, des choses comme ça. Mais non, ça, c'est plus du tout, je l'envisage plus depuis longtemps de cette façon-là.
Voilà. T'as jamais la flemme parce que là, moi, je suis posée dans ton canapé et je me dis, elle va aller bosser tout à l'heure et je me dis, waouh, moi, j'aurais la flemme.
Ça arrive quand t'es. L'hiver n'est pas encore arrivé, mais quand il fait bon à l'intérieur et très froid à l'extérieur, tu peux avoir des petits coups de flemme. Mais non, c'est une question de je sais pas, je me motive, je me prépare, je mets un petit coup de musique et puis je me maquille, puis zou, puis le vélo, ça te remet un petit peu les idées en place, quoi, la petite demi-heure. Mais parfois, j'avoue, j'ai la flemme. J'ai eu la flemme une fois et ça date de l'année dernière. Et je l'ai bien senti. Le club était ouvert le 23, donc la veille du réveillon de Noël, le 23 décembre. Et je n'y suis pas allée. J'ai planté en expliquant que je n'avais pas envie, que j'étais très bien chez moi et que c'était les vacances, qu'il y avait cette ambiance un peu décoration de Noël avec les enfants, tout ça, tout ça. Et en fait, ils ont fait 36 personnes ce soir-là. Donc, j'avais dû vraiment bien le sentir et j'ai bien fait de ne pas y aller parce que ça n'aurait servi à rien et je me serais fort ennuyée. Donc, j'étais très bien sur mon canapé, j'ai raison de voir. C'est la seule fois où j'ai eu la flemme.
On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais tu veux faire quoi plus tard ?
Alors justement, c'est ce fameux truc de thérapeute, donc de me dire soit de faire un, d'associer ça à autre chose, parce que moi j'ai quand même une passion pour les animaux qui est assez prononcée. Donc on est déjà sur un projet d'élevage de petits chiens, de teckel et de pomeranian. Je sais pas si tu vois ces petits chiens. Voilà, donc c'est un des chiens. Enfin, j'en ai un, c'est mon deuxième. Et donc je me suis dit que voilà, ça allait être ça. Donc m'exiler en Normandie. Bon, peut-être pas non plus commencer à faire des trucs de permaculture parce que je pense que je suis pas du tout prête et il va falloir il va falloir apprendre à faire tout ça. Mais ouais, donc voilà, l'idée c'est de s'exiler dans une maison et puis jongler entre la sophrologie, l'élevage de petits animaux et avoir en fait, je suis un peu, je sais pas, sur un truc de projection à la cool et de pas me trop me stresser de me dire de quoi sera fait demain. Tout est assez instable en règle générale autour de moi ou dans la vie pour me dire qu'il faut pas non plus s'obliger ou stresser voilà, à se dire qu'il va falloir changer de métier. Ou sinon, peut-être rester comme ça, en directrice d'un établissement, je ne sais pas. Ouais. On l'a déjà proposé, je ne sais pas encore. Ça prend du temps, ça, en revanche. Ça te coupe encore plus de ta famille et de ton cocon familial. Enfin, ouais. Donc, parce que s'occuper d'un établissement, ça veut dire, enfin, restaurant ou bar, ou un mode de nuit, je ne le ferai pas parce que c'est beaucoup trop de temps. Mais ça signifie ne jamais être chez soi le soir avant minuit, 1h du matin, voire 2h. Et au moins 3-4 jours par semaine. Donc, à méditer, je ne sais pas. Mais le côté thérapeute et faire des peut-être, c'est faire fabriquer mes tisanes, enfin, n'importe quoi, faire des pots de confiture. Non, bon, on va voir. Je suis encore trop parisienne pour songer à faire un truc, à avoir un tournant aussi violent.
Et en même temps, j'ai l'impression que tu le mets pas dans si longtemps que ça quand tu disais bon, il va falloir s'arrêter. Est-ce que tu sais à quel moment tu vas dire la porte, c'est fini quoi?
Je sais pas. Je pense que c'est l'endroit où je travaille est probablement le dernier où je travaillerai. J'ai estimé, je me suis dit encore 2 ans et je sais pas trop. Voilà, là, je sais que je suis en train d'agrémenter mon projet de transition en passant le permis, tout ça, mais je sais pas. Je suis pas lassée. Ça se trouve, ça durera plus longtemps. Voilà. Donc on m'appellera pas mamie à la porte. Puis même si on m'appelle mamie, c'est pas très grave. C'est vrai que j'ai l'âge maintenant d'être la maman des clients pour la plupart, mais c'est pas grave. Ça me permet justement de mieux leur faire la morale encore. Voilà.
Merci beaucoup Sylvie.
Mais de rien.
Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac réalisé par Loïc De Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt.